This feature has been brought to you by Slot Foundation, which needs your support to continue projects like these. Information on this recording and access to other recordings is available online at slot.org.
On commence donc la deuxième partie de cette séance avec une discussion avec Hélène Cixous, non seulement sur ce magnifique texte que nous venons d'entendre sur Nancy Sparrow, mais aussi sur sa collaboration, son travail avec d'autres artistes contemporains. En réalité, l'art a été toujours très présent dans l'œuvre d'Hélène Cixous. D'abord par quelques tableaux qui apparaissent à plusieurs reprises et qui constituent, comme elle vient de le dire, ces semblables poétiques, les semblables poétiques de son œuvre littéraire. Ces tableaux, comme par exemple le bœuf écorché, Bethsabée au bain, la fiancée juive de Rembrandt, ou bien Saint-Georges et le dragon d'Uccello, le chien de Goya, ou bien les 36 vues du mont Fuji de Hokusai. Tous ces tableaux et d'autres que je ne nomme pas font l'objet de commentaires ou bien de vrais textes de la part d'Hélène Cixous, des textes qui réfléchissent autour de la peinture et de la littérature à la fois. L'écrivain parle ainsi de, je la cite, « la parenté étrangère inavouable » qui lie son œuvre, par exemple, à celle de Rembrandt. Et le chien de Goya, comme tous les lecteurs et les lectrices d'Hélène Cixous le savent, revient hanter à plusieurs reprises beaucoup de textes d'Hélène, confondus avec celui enterré dans le jardin de son enfance, Phipps, l'image même de la spectralité, qui est une ligne de force dans son univers littéraire et même de la littérature en général. Mais depuis quelques années, Hélène Cixous a multiplié des textes écrits en collaboration ou en complicité, comme on pourrait le dire pour celui-ci, avec l'œuvre d'artistes contemporains très différents, notamment Simon Antaille, avec le livre « Le tablier de Simon Antaille », qui a paru en 2005, mais aussi avec tous les textes qu'elle a écrits pour ou sur ou avec Ronnie Horne, la photographe, les textes plutôt au pluriel sur Maria Shevska, les textes aussi sur Jeffrey Gibson, un artiste natif américain, et aussi bien sûr ce beau texte de Nancy Sparrow parmi d'autres. Nous savons que ces textes-là, plusieurs de ces textes au moins, sont le fruit des rencontres personnelles qu'a fait l'écrivain, ou même parfois de demandes ou de commandes précises qu'on lui a faites, c'est-à-dire en partie le fruit du hasard. Mais Hélène Cixous dit à propos de Rembrandt, « Écrire, je la cite, écrire ou dessiner, ce sont souvent des jumelles aventures. » C'est une belle phrase. Et elle évoque aussi, Cixous, dans un texte consacré à Ronnie Horne, la célèbre phrase de Baudelaire, « Mon semblable, mon frère ». J'aimerais donc, pour commencer cette discussion, poser à Hélène Cixous la question de cette ressemblance ou proximité de son œuvre littéraire et de certaines œuvres d'art singulières en rapport avec des sujets qui l'occupent, et tout d'abord avec la question de l'autoportrait. L'autoportrait, nous avons ici une complication, disons, de l'autoportrait. C'est toujours compliqué pour Hélène Cixous, la question de l'autoportrait. Par exemple, dans le tablier de Simon Antaille, nous lisons, je la cite, « Il y a dans la vie de mon regard deux ou trois tableaux au monde qui me mènent. Il y a le bœuf écorché, l'autoportrait de Rembrandt le plus cru. Il y a le chien à demi enfoui ou déterré, l'autoportrait en jaune de Goya. Il y a l'écriture rose, l'autoportrait de Antaille. » Hélène, tu considères donc ces tableaux de Rembrandt, de Goya et de Antaille comme des autoportraits, même quand ce n'est pas évident, disons, quand ils semblent peindre autre chose que leur auteur. Il semble peindre un bœuf, un chien, l'écriture. Ma question a quand même un deuxième volet au développement. Dans le dernier tableau, le portrait de Dieu, consacré, c'est un texte consacré à Hokusai, tu traites aussi l'approximation de la peinture à la vérité. Approximation ou approche au sens littéral, car il s'agit justement de la tension vers, de l'espérance d'atteindre ce qu'on ne peut pas atteindre, de voir ce qu'on ne peut pas voir. C'est quelque chose qui est très présent dans ton œuvre. Je cite par exemple la phrase de la chatte de Messie qui dit « voir, voir, voir » dans ce fragment de la ménagerie à la philosophie. Il semblerait que c'est l'impossibilité de la représentation ce qui fait peindre le Fujiyama par Hokusai, la montagne Saint-Victoire par Cézanne, ce sont tes exemples. C'est l'impossibilité de peindre qui est constitutive de la peinture. Ce serait donc le fait de s'approcher de la vérité, peut-être, qui ferait le tableau ou l'œuvre d'art, mais aussi la littérature. J'aimerais donc que tu parles un peu de cette approche de la vérité dans les textes, dans tes textes consacrés aux arts, ainsi que de la question de l'autoportrait. Que peint-on ? Qu'écrit-on quand on peint des autoportraits par le biais de l'autre ou de soi comme autre ? Quelle est la vérité qui s'annonce dans ce mouvement entre le soi et l'autre de l'autoportrait dans les photographies de Ronnie Horne ou les tableaux de Nancy Sparrow, peut-être ?
Alors, je vais faire un petit pas de côté d'abord pour dire que je suis pleine de reconnaissance et d'affection à l'égard de mes amies ici présentes qui travaillent de manière admirable et qui, en fait, pour dire la vérité, sont parmi les auteurs les plus précieux de mes autoportraits. Car, évidemment, sans elles, sans ces échanges, ces espèces de dissidence intérieure, rien ne se penserait ou ne se maintiendrait en moi. C'est à toi ou c'est à moi ? C'est à moi. Oui. Donc, je veux vraiment dire merci de tous mes cœurs. Quand je dis tous mes cœurs, c'est qu'il s'agit justement de beaucoup de cœurs et de beaucoup de moi. Alors, je vais essayer de dire quelques petits mots parce que je ne veux pas faire un séminaire et Martha m'y pousse. Si je devais répondre à ces immenses questions, on serait là encore demain soir ou après-demain soir. Je ne veux pas vous faire ça. En fait, c'est justement la lecture, cette chose si mystérieuse et si importante, qui retourne vers moi une part de cet auto-hétéro-arto-portrait que je ne fais pas, qui se fait en moi, et moi, encore une fois, il faut le multiplier, il faut le pluraliser. Mais je note, grâce à elle, grâce à mes amis, grâce à la lecture, que s'il y a autoportrait, effectivement, la façon dont mon écriture s'avance avec un troupeau d'êtres, parmi lesquels je suis, je note que ce troupeau vivant qui se meut et qui m'émeut, il est composé très souvent de créatures comme le bœuf, le chien, le cheval, car lorsque Martha cite Saint-Georges et le dragon, elle m'oblige à avouer que dans Saint-Georges et le dragon, c'est le cheval qui m'intéresse ou bien le dragon. Et Saint-Georges m'intéresse par le signifiant, c'est-à-dire par le nom propre donc de Georges qui est celui de mon père. Mais quant au dessin, quant à la forme, ce qui me fascine, c'est plutôt justement la projection de Saint-Georges en cheval ou en dragon. Donc je reconnais, j'admets que lorsqu'il y a attraction, lorsque je suis appelée par des créatures qui sont très importantes pour moi, et tu cites le semblable poétique, c'est-à-dire des semblables dissemblables, hein, quoique je sois bœuf, je crois, d'ailleurs, d'après le calendrier chinois, Ce sont donc des, voilà, plutôt des créatures dites animales, même si pour moi, il n'y a pas grande différence. Alors, si je réponds à l'appel, c'est d'abord d'une manière, je me fie toujours à, tout à l'heure j'ai parlé de se mouvoir, de s'émouvoir, je me fie toujours à l'affect, c'est-à-dire au fait que quelque créature ou quelque chose mystérieuse fait battre mon cœur ou me... tout à l'heure, Jean-Michel a parlé de pleurer, disons, fait venir quelque chose en moi, d'humide, qui peut être des larmes, du sang, je ne sais quoi. Et ça, je l'admets comme signal. Et d'ailleurs, lorsque je suis en état de réponse, c'est soit que, comme tu l'as dit, Martha, j'ai moi-même repéré des actions visuelles, des tableaux, des figures qui me saisissent au passage. Il y en a assez peu, si bien que je les remarque. Ou bien je suis dans le cas d'être sollicité par tel ou tel et je ne peux répondre sans me sentir malhonnête, et j'essaye de ne pas être malhonnête, je ne peux répondre que si justement j'éprouve exactement la même chose, c'est-à-dire une émotion, que si je suis affectée, bousculée par, alors, je ne sais quoi, hein, bien sûr, on en vient au je ne sais quoi. Ce je ne sais quoi, je l'accepte donc comme clé, comme porte, comme ouverture vers quelque chose de mystérieux. Qu'est-ce qui fait que ces créatures, ces œuvres, me touchent, pour utiliser le mot que l'on emploie de manière courante, et qui dit quelque chose de très fort, parce que c'est véritablement de l'ordre d'un toucher. Alors, c'est seulement dans un deuxième temps ou au deuxième degré que je pourrais analyser, si je faisais justement une œuvre de lecture critique, ce qu'il y a de commun entre ces choses non communes. Par exemple, qu'y a-t-il de commun entre le bœuf écorché et l'écriture rose de Hantaille ? A priori, rien. Et fondamentalement, pour moi, tout quoi. Finalement, ce que je repère, mais encore une fois, c'est un après-coup, parce que je fonctionne d'abord, justement, à l'émotion, c'est que ces personnages qui donc, viennent se manifester en moi, de manière extrêmement intérieure, je reconnais qu'ils appartiennent tous à une espèce, qui est l'espèce des personnages combattants. Parfois vaincu, très souvent vaincu, mais jamais tout à fait. Parce que si vaincu soit-il, si anéanti soit-il, ce qui a été le cas d'Artaud, quelque chose en cette défaite se déplace et se transforme en œuvre. Et ce sont ces créatures-là qui m'importent, qui m'attirent, que je reconnais, parmi lesquelles je me sens, si je peux dire, chez moi. Je le dis évidemment... Avec prudence et humilité. Ce sont des personnages écorchés. Ce sont des personnages blessés. Quand je dis personnages, je parle d'œuvre. Hein. Toute l'œuvre de Spéro, c'est ça. C'est une gigantesque blessure qui se transforme. Et finalement, je réponds toujours de la même manière, et toujours à partir de ce sentiment de blessure, dont je ne veux pas trop y penser, parce que si je le pensais trop, si j'étais trop intelligente, comme dirait Proust, je serais incapable de recevoir des blessures. Or, je veux en recevoir. Je veux être blessée, je veux être touchée. Je veux être caressée, je veux être égratignée. Et parce que c'est le seul moyen de communiquer avec l'autre. C'est justement de se laisser faire, de laisser s'ouvrir quelque chose. Et donc, je disais, mais quel rapport entre le bœuf écorché, qui est, pour moi, un des plus beaux tableaux du monde. D'ailleurs, je triche parce que je dis toujours, le plus beau tableau du monde, c'est... Heureusement, comme je ne dis pas au même moment, alors il peut y en avoir plusieurs. Donc le plus beau tableau du monde en cet instant, c'est le bœuf écorché. Bon. Pour moi, c'est l'absolu. Et je me dis, et l'écriture rose, alors ? Eh bien, évidemment, ce sont, dans les deux cas, ce sont, je dirais, justement, des textes, puisque pour moi, ce sont des textes aussi, donc des textes peints. Hein, je ne sépare pas écrire et peindre. Et je ne réponds justement à une œuvre visuelle que si elle écrit, mais écrit à sa façon. si elle m'écrit, si elle m'envoie une lettre, si elle m'envoie une lettre qui peut être un poignard, hein, bon. Ce sont dans tous les cas, justement, des œuvres textes limites, et qui sont à la limite, absolument au ras, hein, comme on dirait à fleur de peau, à ras de peau, à peau rasée, à peau arrachée. Hein. Même chose pour l'écriture rose, qui est une sorte de transformation des livres, du livre et des livres, en une gigantesque peau rose. Ils sont chaque fois aussi ces gestes, ces moments, ces rêves, ces fantasmes, toujours en transfiguration. C'est-à-dire qu'ils sont instables, ils donnent à voir une première version, qui est peut-être d'ailleurs la centième, je n'en sais rien, hein, qui tout de suite commence à trembler pour s'ouvrir, pour laisser passer, pour laisser sourdre une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième version, profondeur, degré, etc. Ce que font évidemment tous les grands textes et toutes les grandes œuvres. Hein. Mais chaque fois, justement, il s'agit d'un aller plus loin, d'une poussée supplémentaire. Et là, je retrouve la formule magique de Rousseau dans les Confessions. Vous savez que quand il commence les Confessions, il les met sous l'exergue, sous la peau d'une micro-citation en latin qui est « intus et incuté », c'est-à-dire à l'intérieur et dans la peau, c'est-à-dire sous, dans la peau, citation qu'il a empruntée à Perse. Et d'ailleurs, ce Intus et Incuté appartient à une satire dont il ne nous reste que des bribes. Ce sont aussi des débris et des restes. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que je commence à entendre chanter finalement une œuvre visuelle, c'est-à-dire qu'elle commence à me chanter son chant, c'est que l'artiste, l'auteur, enfin, je ne sais pas trop comment l'appeler, le médiateur, a entrepris de peindre ici, là, voilà, l'au-delà. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de au-delà. Ils s'entassent, ils s'empilent, ils font mine et pyramide. Bon. Voilà ce qui fait que lorsque je regarde... je suis déjà en train de laisser aller mon imagination dans les profondeurs de quelque chose qui, évidemment, l'art visuel m'intéresse, qui se présente toujours comme une surface. Hein. Bon, mais ça on sait. Quant à l'autoportrait, ce qui, depuis les profondeurs, est arrivé à la surface, ce bœuf écorché, dont, lorsqu'on le regarde, on découvre qu'il suffit justement de se mettre en méditation, lévitation devant le bœuf écorché pour s'apercevoir que c'est un palais et que ce palais propose à qui c'est le regard, disons, propose au regard, à ceux qui sait le regard, à la personne qui sait le respecter, une entrée dans le secret par des escaliers. Ces escaliers sont dessinés peints. Alors, on a pu croire à un certain moment que c'était la cage thoracique du bœuf, mais ce sont des escaliers qui vous mènent justement dans les profondeurs. Quand je parle d'autoportrait, c'est que je pense que lorsque Rembrandt ne peut pas ne pas en venir à ces escaliers intérieurs qui passent justement par le corps dénudé, la carcasse, le cœur, la chair du bœuf tué, parce que ce qu'il nous rappelle aussi, c'est l'assassinat. Il fait son autoportrait. Il fait son autoportrait de tué, voilà, comme l'est tout artiste et tout être humain, parce que je ne fais pas un sort à part à l'artiste, je pense que sont artistes aussi tous les êtres humains qui sentent qu'ils, à un certain moment, ou peut-être toujours, ou tous les jours, à toute occasion, est un tué. Et un tué est un tué. Et pour moi, donc, il y a autoportrait, c'est-à-dire, évidemment, je me sers d'un concept que je déconstruis complètement, hein, bon, parce que ce n'est pas l'autoportrait de moi en miroir, comme certains très grands l'ont fait, hein, mais y compris d'ailleurs Rembrandt. Hein, c'est l'autoportrait de quelqu'un à l'intérieur, hein, de quelqu'un qui est dedans, un parmi d'autres, une parmi d'autres. Comme par exemple, Proust avoue à un certain moment, et je trouve ça absolument sublime, qu'il a reconnu, et c'est le commencement de la recherche, c'est avant la recherche, c'est dans ma préhistoire de la recherche, pardon. Il a reconnu brusquement. Est-ce qu'il y a de l'eau, Aaron? Non? Il a donc senti passer en lui un garçon. Et un petit garçon. Et ce petit garçon, ça je peux pas parce que si je le suis, je pourrais plus parler. D'accord. Ou alors je le cracherai, évidemment, ça sera. Et il nous le confie. Il nous dit que il a surpris en lui un petit garçon qui joue dans les ruines. Ça, c'est en vérité l'autoportrait de Proust. C'est un petit garçon qui joue dans les ruines. Bon, je le cite rapidement parce qu'en vérité, là aussi, il faudrait 15 jours pour travailler autour de cette confession ou de cet aveu. Mais en chacun de nous, il y a un petit garçon, ou en tout cas une petite personne, un enfant qui joue dans les ruines. Et c'est l'autoportrait de ce petit être qui joue dans les ruines qui m'intéresse et que je repère chaque fois dans les œuvres, comme justement dans Nancy Spérot, qui commence par plus que des ruines, hein, puisqu'elle commence en recevant dans la gueule la guerre du Vietnam et en se sentant justement à la fois responsable en tant qu'américaine et victime en tant que vietnamienne. Alors, le chien de Goya, quand je l'ai trouvé beaucoup plus tard que, je dois dire, que le bœuf écorché, évidemment qu'il m'a aboyé tout de suite au cœur. J'ai tout de suite reconnu. Hein. Et c'est le chien qu'il faut soi dans Goya. C'est la signature de Goya. Bon, au fond, je vous dis des choses très simples, hein, que tous nous repérons. Et si, ensuite, je pourrais dire que toutes ces figures, tous ces aspects, je pourrais les considérer comme des sortes d'autoportraits de l'enfant qui joue en moi dans les ruines, c'est parce que je conçois le type d'art que je pratique, c'est-à-dire la littérature, comme cela, comme un jeu dans les ruines, mais un jeu endeuillé et en même temps vainqueur de la mort dans les ruines. Je reconnais moi dans des œuvres qui, comme je l'ai souvent dit, qui se sauvent, qui se taillent et qui se sauvent et qui se démultiplient et qui trompent aussi, merci, qui trompent aussi l'attente, l'adversaire et même le spectateur en faisant semblant d'être une alors qu'elles sont millions. Voilà. Merci.
Donc, je vois de l'eau peut-être aussi. Pour continuer un peu sur cette idée des artistes en tant que combattants ou en tant que metteurs en scène d'une certaine blessure dans l'art, j'aimerais à mon tour poser la question à Hélène Cixous, justement, la question du cri dans l'art. Hein, les tableaux de Nancy Spérot, comme nous venons de l'entendre, sont lus par Hélène Cixous comme des cris, hein, plutôt que des images ou des mots. Hein, il s'agit des morceaux d'écriture, mot dans lequel Hélène Cixous inscrit constamment tout au long de son texte le cri. Hein, donc la peinture et l'écriture sont semblables dans ce sens-là, parce qu'elles savent crier, dira Hélène Cixous. Nancy Spérot crie, écrit en peinture, comme les photos de Ronnie Horne aussi, qui, je cite Cixous dans l'un de ses textes, se regarde pousser des cris, les cris les plus déchirants. Le cri semble précéder également les mots chez Rembrandt. Je cite Hélène Cixous dans un texte du 90, « D'abord le cri, ensuite les mots, le dessin crie », ainsi que le geste de la danse chez Karine Saporta dans un texte que Cixous écrivit en 84. Donc, quel est ce cri, disons, poussé comme un appel dans l'art, voire comme une interpellation, non seulement dans la peinture ou la photo, mais aussi dans la danse? J'aimerais demander à Hélène Cixous, elle a un peu déjà parlé de cela, s'agit-il justement du cri du bœuf écorché de Rembrandt, de celui du chien de Goya? S'agit-il donc d'entendre la voix de la victime? S'agit-il plutôt d'entendre celle du bourreau, donc celle du bœuf ou celle du boucher dans le portrait de Rembrandt, de celui des Américains ou de celui des Vietnamiens dans les tableaux de Nancy Spérot que nous avons vu dans ces images? J'aimerais demander aussi à Hélène Cixous de parler de ce qui lie ce cri de l'art à la mort, ou à la fin ou à l'événement irréversible que semblent raconter certains des tableaux qu'elle a lus. Donc j'aimerais lui demander quelle est la plainte que portent les bombes et les hélicoptères chez Spérot, les lettres de refus peut-être dans Vera's Room, dans le texte qu'elle a écrit sur l'œuvre de Maria Shevska. Quels sont peut-être ces cris rouges ou ces cris blancs qu'elle entend dans les portraits de Ronnie Horne, dont la revenance, la répétition, une certaine insistance semblent être les mouvements propres? Donc, d'une certaine façon, j'aimerais poser la question de quelle est cette forme de mort ou de revenance dans l'art qui est liée au cri dont Hélène Cixous a un peu parlé. Donc, une revenance qui, nous dit Cixous, qui ne serait pas à comprendre comme une nostalgie. Cette revenance du cri ne serait pas à penser comme un retour à un lieu originaire qui renouerait avec l'héritage compris au sens strict. Je cite en conclusion de ma question un passage d'un texte que Hélène Cixous a écrit sur l'œuvre de Geoffrey Gibson. Geoffrey Gibson n'est pas un nostalgique, un être voué au retour, au nostos, par un regret. Il est un artiste de relance. Il s'intéresse au reste, à ce qui reste, à devenir futur dans les restes. C'est la question un peu du reste dont vous avez aussi parlé. Donc, à ce qui reste, à ce qui dans le reste particulier peut donner lieu à de l'être de la gestation.
Merci beaucoup, parce que je vais pas répondre non plus de manière trop étendue, parce que c'est trop vaste. Juste une confidence, parce que j'ai trouvé ça assez... Enfin, ça m'a amusé. Les derniers temps, ceux qui travaillent avec moi en séminaire le savent, j'ai repéré à diverses reprises dans les textes de Proust un travail sur le cri. Alors, je rappelle, afin que... Je vais quand même d'abord commencer par parler un peu du cri. Il y a le premier cri, signe de vie. Je n'ose pas parler du dernier cri, puisque vous savez que, idiomatiquement, dans la langue française, le dernier cri, ça veut dire la dernière mode. Alors je parle de l'autre dernier cri. D'ailleurs, il faudrait savoir pourquoi, idiomatiquement, on parle de dernier cri. Probablement que c'est lié, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, c'est lié à quelque chose de l'ordre de du marketing. C'est-à-dire qu'on vend ça à la criée, je n'en sais rien, il faudra voir. Mais il y a le dernier cri aussi, qui est un... dont je ne peux pas parler, justement, parce que ce dernier cri, le cri que personne n'entend, c'est... Je ne peux pas en parler parce que je ne l'entends, ou je ne supporte de l'entendre que qu'en rêve. Tant, justement, il me saisit, il me transperce, il me terrifie, et je ne veux pas qu'il s'arrête. Je suis en train de parler là des cris de naissance et de mort, mais il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, j'avais joué, jadis, dans un texte qui s'appelle « Neutre », j'avais joué sur une histoire de vie et de mort qui citait beaucoup de petits moments empruntés à Edgar Poe. C'était très, très, très ludique, très compliqué d'ailleurs. Et donc, ce texte était constellé de moments greffés de petits fragments de la langue anglaise. Et en particulier, justement, de cris en anglais, c'est-à-dire « scream ». Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était « I scream ». Et bien sûr que « I scream », c'est « I scream ». Bon. Et je me rendais compte que « I scream », c'est « I scream ». Que ce sont les deux faces, voilà, de « cream »,« scream », etc. Bon. Je reviens à Proust. J'avais commencé par m'amuser avec les cris de Paris. Vous savez, cette séquence très, très charmante où Proust fait de la musique. Et, enfin, le narrateur. Il fait de la musique avec les cris de Paris. Et tout est écrit, justement, en cris de Paris. Et ça chante sur des dizaines de pages au commencement de la recherche. Mais ces cris-là, ce sont des cris merveilleux. Ce sont les cris de la séduction des légumes. Hein ? Oh, quelle est belle ma laitue, etc. Hein ? Bon. Donc les cris, ce n'est pas nécessairement la douleur. Hein ? C'est aussi l'animation la plus intense. Hein ? On pousse des cris de plaisir. Là-dessus, j'arrivais en d'autres lieux de Proust où je découvrais que lui, il entend, par exemple, à propos de Chateaubriand, il entend le cri de chouette de Chateaubriand. Et c'est « ouhou, ouhou ». Ce sont les gémissements de Chateaubriand qui pleure sur lui-même. Bon, voilà. La curiosité, c'est que j'éprouvais une grande satisfaction à trouver tous ces cris relevés par Proust, jusqu'à ce que je m'aperçoive que dans mes textes, depuis le début, j'arrêtais pas justement de mettre en scène des cris, de crier, de tourner les cris de tous les côtés. Ce qui, à nouveau, m'oblige à interroger le cri dans ce que je fais. Et je crois que ce cri-là, il a une origine, ou les cris ont des origines très anciennes, très archaïques, dans ma propre expérience de sujet. Ce sont les cris, aussi bien justement les cris des légumes, des fruits, etc., que je pouvais entendre au marché quand j'étais petite, mais c'était aussi les cris de douleur, les cris de faim, les cris des femmes en train d'accoucher dans la clinique de ma mère, mais aussi les cris de désespoir, de rage, que je pouvais entendre dans les rues, et que moi-même je poussais, en me disant toujours la même chose, c'est que le cri, s'il a besoin d'être écrit, c'est parce que c'est toujours celui qu'on n'entend pas. Ce que je retiens, ce que je cherche à entendre, c'est le cri qui est poussé, parfois en silence. Le silence peut hurler, hein, et que cependant on n'entend pas. Donc c'est du côté de la vie, hein, c'est pas simplement du côté de la mort.
Je voulais te poser une question beaucoup plus brève et peut-être plus simple. Mais je crois qu'elle est importante par rapport à ces écrits sur l'art que tu fais, que tu as fait. Et je vais mettre cela en rapport avec ton écriture pour le théâtre aussi, puisqu'on distingue souvent dans l'œuvre d'Hélène Cixous entre les écrits de fiction et l'écriture pour le théâtre, entre autres en disant que les écrits pour le théâtre ont une visée plus politique ou plus immédiatement politique que l'écriture de fiction qui serait moins portée à ce politique dans le sens de l'actualité immédiate. Mais j'ai toujours pensé que cette distinction était un peu forcée, même si j'admets que c'est vrai qu'il y a un ton plus ouvertement politique dans le théâtre d'Hélène Cixous que dans la fiction en général. Mais j'observe alors que la plupart des textes que tu consacres à l'œuvre d'artistes contemporains sont de même très politiques, et dans le sens le plus précis du terme. Plus politique et même en se focalisant sur des aspects, sur la violence, sur la guerre, sur des aspects qui sont en rapport avec le politique et qui sont très forts. Je pense évidemment au beau texte que nous venons d'entendre sur Nancy Spero, mais aussi à d'autres textes, par exemple au texte que tu as consacré à Jeffrey Gibson, peut-être, où tu parles de questions d'héritage, je crois que Joanna va en parler plus tard, ce qui est évidemment politique par rapport à un artiste natif américain, mais je pense aussi au parcours vital d'un Simon Antaille, ou encore au sujet abordé par Ruth Beckerman dans ses films. Cela obéit à un choix personnel, je crois. Mais je me demande d'abord si tu choisis plus volontiers pour en parler des œuvres ancrées dans ce politique, ou bien si c'est ta lecture plutôt qui serait politique de cette œuvre ou de n'importe quelle œuvre. Mais ma question portait plutôt, quand je l'ai commencé, sur cette parenté possible entre l'art plastique et au visuel et le théâtre par rapport aux politiques.
Je suis contente qu'il y ait une question de ce genre, qui est évidemment là aussi une question très délicate à traiter. Je pense que on pourrait répondre de manière globale, par exemple, la littérature ou l'art n'a pas à se préoccuper de politique. D'ailleurs, il faut dire que c'est d'actualité, parce que concernant ce qui se passe en ce moment au Salon du Livre, j'ai entendu les énoncés les plus contradictoires. Par exemple, des gens qui veulent se démarquer d'un boycott des écrivains invités au Salon du Livre, en disant « mais la littérature, c'est pas politique ». Bon, donc on peut pas accuser les écrivains de faire œuvre politique. Enfin, j'ai entendu ça, hein, j'ai entendu les choses les plus diverses autour de la question du politique avec la littérature et l'art. Bon, pour moi, c'est évidemment totalement indissociable. Je ne vois pas trop comment on pourrait dissocier... je ne peux pas imaginer une littérature qui n'inscrive pas... Alors, d'une manière ou d'une autre, ça c'est évidemment à déterminer, explicitement ou implicitement, en s'engageant ou en se désengageant, en s'abstenant ou au contraire en prenant parti, etc., son destin et son aventure dans le politique. Là-dessus, il faut évidemment discerner, distinguer un très grand nombre de cas de figure et aussi d'attitudes, de comportements déterminés d'une part par les genres dans lesquels on s'exprime, où on s'avance, et aussi situés dans la grande scène où se produit l'art, à tel ou tel moment ou endroit de la production d'une œuvre d'art. Alors, quant au genre, pour faire écho à ce que tu as d'abord dit, Martha, c'est-à-dire, par exemple, quelque chose qui serait plus explicite du côté de l'écriture pour le théâtre que dans les écrits de fiction ou les écrits pour l'art. Quoique tu aies justement... souligner tout de suite que peut-être l'opposition ou la différence n'était pas nécessairement convaincante. Alors, il est vrai qu'il y a parfois dans ce que je fais de l'explicite. Il est vrai que quand j'écris pour le théâtre, surtout pour le théâtre du Soleil, il y a une visée explicitement, délibérément, philosophico-politique. Ce n'est pas simplement politique, bien sûr. Hein. Bon. Parce que la scène du théâtre le permet et le demande. Est-ce que ça veut dire que les écrits de fiction sont moins politiques? Non, ils le sont autrement, de même que justement les œuvres d'art. Je pourrais dire la même chose, par exemple, en prenant l'exemple de Goya, c'est-à-dire que le désastre de la guerre, c'est politique, Guernica, c'est politique, etc. Bon, et alors, si après on a le chien à demi-enterré de Goya, c'est pas politique? Si, hein, bien sûr que si. C'est une autre façon de faire apparaître métaphoriquement ce qu'il en est de du destin, de la survie, du massacre, de la résurrection, de tout ce qui est... Tout ce qui attend, tout ce qui nous attend les uns et les autres comme mortalité ou comme possibilité d'immortalité et qui est très souvent déterminé par un contexte politique. Et là, alors, je ne peux pas imaginer justement qu'un artiste n'ait pas affaire avec son environnement, son héritage culturel, politique et son héritage culturel dans une certaine tradition artistique, ce qui, par exemple, est le cas de Antaï ou est le cas de Nancy Spero. Deux mots à ce propos, par exemple. Bon, Nancy Spero, explicitement, vous l'avez vu, elle entre en art sous les bombes. Bon. Voilà, ça se croise. Hein. Et donc, la question ne se pose pas pour elle. C'est-à-dire qu'elle fait réponse, son art est mute justement sous la violence qui est exercée par le pays dont elle est native. Et là, je dois dire que j'admire. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse de voir comment, dans ces années-là, donc dans les années 50, si vous voulez, 60 ensuite, comment, lorsque on est citoyen d'un monde qui déchiquette, comment est-ce qu'on traduit ces violences? Comment est-ce que donc on arrive à faire apparaître, à donner apparition à quelque chose qui relève du chaos, qui désordonne, qui massacre et qui par ailleurs, parce que ça, c'est évidemment la version de Nancy Spero, est causée à la fois par un système, par une idéologie, par un impérialisme et par quelque chose, et elle insiste énormément, qui relève du phallocratisme. Cette violence-là, pour elle, elle est explicitement mâle. Hein? Bon, pas masculine, mâle. Bon, mâle. Et je me dis, parfois, regardant son œuvre, par exemple la série, justement, War Series, la série Guerre, Je peux avoir un moment comme ça d'envie en me disant là quand même, en ce cas-là, l'art visuel a des ressources que n'a pas la littérature. Que ferait la littérature? Alors la réponse c'est elle fait du Celan. C'est-à-dire l'équivalent c'est justement la fragmentation, le débris, la casse de la langue. Bon, voilà. Mais chaque fois, la question se pose. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive dans le médium qui est le mien en tant qu'artiste lorsque des bombes tombent et tuent, hein, et que, en plus, je fais partie des bombes, hein, quand on est américain, ou je fais au contraire partie des bombardés quand on est roumain ou germanophone. Bon. Donc ça, je pense que toutes ces questions-là, elles sont toujours là. Il faut constamment les entendre, parce qu'elles hurlent, hein, elles vous hurlent aux oreilles, et il faut essayer de, non pas de répondre frontalement, comme ça, mais de se laisser traverser par ces violences pour les laisser vomir, cracher, chier, comme c'est le cas pour Artaud ou pour Nancy Spero, ou saigner, comme ça pourrait être le cas pour moi, par exemple. Bon. Là-dessus, il y a autre chose, et ça, quand même, je tiens à faire la part de ces choses-là. Quand je suis en rapport avec des artistes qui travaillent dans le monde des arts, visuel, plastique. Je passe dans un autre espace de production. Et ça, je dois dire que c'est très important. C'est-à-dire que la littérature est sans le sou. Il faut dire la vérité. Hein. Et, alors, d'un côté, il y a les best-sellers, on sait. Hein. Et c'est très, très compliqué toujours, parce que chaque fois que je dis ça, je me dis, je demande pardon aux écrivains de valeur qui sont des best-sellers. Parce que c'est une bizarrerie, quand même. Enfin, il y en a, mais il faut dire que, bon, c'est de toute façon un coup de marketing. C'est pas possible autrement. Et puis, je dirais même que c'est louche. Alors, de l'argent, il n'y en a pas en littérature. Par contre, en art, il y en a nécessairement, il en faut, comme on le sait. Il en faut parce que, demandez à Van Gogh, il faut acheter des toiles, mais pas seulement. Hein. C'est que là, nous sommes dans des mondes où, prenez en taille, c'est pas seulement la matière qu'il faut déjà fournir, mais il faut les espaces. Il faut un univers qui, non seulement demande des conditions matérialistes, gigantesques, auxquelles l'écrivain n'a pas à voir. Et puis, il y a le marché. C'est que maintenant, ce n'était pas le cas encore au XIXe siècle, mais maintenant, tout est marché. Et donc, mes amis, les gens que j'aime, les gens qui font œuvre, sont pris dans l'enfer du marché. Ils ont tous à traiter de la question de la marchandisation de l'œuvre d'art sur un mode que certains d'entre vous connaissent et beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. J'en suis sûre parce que je suis témoin que moi je débarque. C'est il n'y a pas très longtemps que j'ai commencé à comprendre l'écart, enfin infranchissable, entre l'art sans argent, qui est la littérature, et l'art avec argent, qui est l'art à matérialisation visuelle, le cinéma, etc. Enfin, tout ça, il faut de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, du coup, on est pris dans des compromis incessants et dans des tourments incessants. Et je ne les envie pas. Bon. Il n'y a que catastrophe hein, dans cet univers. Et là, je dirais que je vois des réponses, parfois, qui sont des réponses extraordinaires. Alors, quelqu'un comme Spero a fait l'expérience de la mise au ban lorsqu'elle était jeune, lorsqu'elle commençait à produire. Elle était mise au ban en tant que femme. Elle était dans un univers de misogynie active et elle a protesté ouvertement. Elle a à son époque eu un geste qui était une sorte de féminisme de l'art, où elle a se regroupé des femmes artistes qui, quelles qu'elles aient été, et même si justement leur art n'était pas féministe ou femme, étaient de toute façon interdites quasiment d'exposition et de musée. Donc là, elle a déjà fait une réponse, elle a payé très cher, et elle a continué jusqu'à maintenant, jusqu'à son grand âge, à avoir à faire face à ce genre de situation. À cela s'ajoute ce qu'elle fait, et que je trouve très intéressant, c'est que ça va avec des sortes de combats, par exemple, comme je l'ai dit très rapidement, entre Chicago et New York. Alors, à New York, on fait de l'art abstrait, et le figuratif se réfugie à Chicago. Ce qui est chose extraordinaire, hein, c'est tout à fait passionnant, ça fait partie de l'histoire de l'art américain. Là, il faut se poser la question, justement, de quel côté est-on? Est-ce qu'il faut prendre parti? Est-ce qu'il faut être d'un côté ou de l'autre? Qu'en est-il du figuratif, de l'abstrait, etc.? Ça, ce sont des questions immenses que je ne veux pas traiter ici. Je me rends compte que je suis plutôt du côté du figuratif, bien sûr moderne, c'est-à-dire tel que vous l'avez vu, ou bien tel que je le vois pratiqué de manière extrêmement déconstructrice par quelqu'un comme Ronnie Horne, qui n'est pas photographe, qui est tantôt photographe, tantôt sculpteur, tantôt peintre, etc., et qui appelle tout ce qu'elle fait dessiner, et qui tantôt, justement, lorsqu'elle passe par un système de photos, déconstruit, c'est-à-dire que soit elle photographie des séries, de toute façon, et jamais une, mais des séries, c'est-à-dire des centaines, elle prend des centaines de photos d'une personne, d'un être, mais ça peut être aussi des photos d'une personne qui est une rivière, ou qui est un animal, ou qui est un paysage, ou qui est un bloc de glace, etc. Bon. Donc, à nouveau, quelque chose se défait, et dans ces cas-là, je dois dire que financièrement, ça ne marche pas. Parce que c'est pas du côté, justement, de... Ça ne se marketise pas si facilement que ça. De l'autre côté, elle va faire des installations qui demandent des mises de fonds colossales. Et elle a traité du marché. Mais que fait quelqu'un comme Antaille? Moi, j'aime ce type parce que il a été fulgurant. Il est passé par une période figurative que j'aime pas du tout, d'ailleurs. Enfin, pardon, excuse-moi, Shimon. Excuse-moi. Hein. Bon. Mais très vite, il a fait du Antaille. Il a atteint les sommets de la reconnaissance, etc. Et il y a 20 ans, il est sorti du marché, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne vend plus. Même si les musées du monde entier crapahutent autour de lui pour essayer de le persuader de faire quand même des expositions, des rétrospectives, etc., il ne veut pas. Hein, il tient une position qui est une position limite, c'est-à-dire à la limite, voilà, là, au bord du rien, hein, au bord d'un certain silence, en détruisant, c'est-à-dire que son œuvre actuellement, c'est une œuvre de défaire, hein, il défait des toiles, et je l'observe et j'admire ça parce que il faut vraiment être une sorte de vieil Ulysse fou et hongrois pour résister aux sirènes. Que des sollicitations, il y en a tout le temps. Et donc, prendre le parti du zéro centime, c'est pas facile, hein, quand on sait qu'il y a des milliards derrière. Il suffit qu'il prenne une toile et qu'il la vende, et il a tout de suite 1 million d'euros. Bon. Mais il dit non. Alors, c'est très fort. Après, évidemment, à l'intérieur, il y a des paradoxes, hein, il y a des contradictions, etc., on pourrait en parler, mais n'empêche que c'est quand même extrêmement fort. Et ça, je dois dire que je le prends en considération. On pourrait se dire que ça ne laisse aucune trace dans l'œuvre, mais c'est pas vrai. C'est déjà là. Ce rapport, justement, à la socialisation, à la marchandisation, etc., il est inscrit dans l'œuvre. Il produit des œuvres limites, des œuvres qui sont... me servir de ce mot nécessaire de Derrida, qui sont en déconstruction, qui déconstruisent aussi le spectateur, aussi le monde des musées et bien sûr elle-même. Et donc qui désorganisent complètement tout ce qui est de l'ordre de l'hospitalité, de la réception, etc. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je pense qu'il y a quelque chose qui est surdéterminé dans ce dialogue qui s'opère entre ces personnes différentes et moi et d'autres, hein, mais bon, c'est justement que on ne peut survivre dans des états limites ou dans des situations aussi arides et sauvages que s'il y a du témoin. Il faut du témoin, il faut qu'il y ait un témoin. Et souvent, l'artiste va chercher témoignage de l'autre côté de la rivière, donc du côté de la poésie ou de l'auteur, et inversement. C'est-à-dire que moi, lorsqu'un artiste me dit « Est-ce que tu peux chanter ce que je fais ?» quand j'entends quelque chose, encore une fois, hein, je me dis « C'est que nous avons en commun, même si je ne sais pas bien le dire, si je ne sais pas bien le peindre, c'est que nous avons quelque chose en commun d'une forme de résistance. » Il y a de résistance au sens de la résistance pendant la guerre et pas de la résistance en analyse. Et tout cela laisse des traces, hein, dans les textes. Ce sont des textes qui résistent aussi au décryptage et à la lecture rapide. Quand je dis texte général, hein, texte visuel et texte à mots. Ce sont des textes qui, à la fois, je pense, sont bons à entendre lorsque on trouve l'oreille pour eux ou l'œil pour eux. Quand je dis l'oreille ou l'œil, c'est que justement pour moi, lorsque je regarde un tableau, immédiatement, il y a quelque chose qui se déplace du regard à l'ouïe. Hein. Je l'entends, je m'entends. Je m'entends avec j'entends aussi que je suis entendue et appelée par, euh, par cette œuvre-là. C'est, ça relève complètement de ce, justement, ce que Derrida a, a rassemblé comme ça sous le thème de la déconstruction pour décrire des tas de phénomènes philosophiques et autres. C'est vraiment défaire, miner, ruiner tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'appropriation simple en envoyant dans l'appropriation le petit garçon qui joue dans les ruines et qui les ruine, qui ruine les ruines. Alors il se trouve que, puisque vous avez cité Jeff Gibson, je dois dire que il est tout jeune et il n'a pas encore une grande œuvre derrière lui, donc moi je dirais qu'il est en attente. Mais comme on disait quand j'étais petite, c'est un peau rouge, c'est un Indien d'Amérique, c'est-à-dire un native American, qui a fait des études en Angleterre, qui s'est cultivé sur un mode dans les institutions de beaux-arts et autres, et qui a eu la chance, je dirais, programmée, d'hériter d'un tout petit morceau de la réserve dans laquelle il est né aux États-Unis. Et depuis, il fait des choses que j'aime énormément parce que il est retourné à sa réserve pour prendre... ça ne peut pas être possession, puisque c'est un autre système, bien sûr, d'héritage, de ce morceau de terre qui lui est venu de sa grand-mère, d'ailleurs, parce que l'héritage descend de cette manière-là. Et il fait ses tableaux en mélangeant ses couleurs avec de la terre, donc, de cette humus préhistorique. Voilà.
Je crois qu'on pourrait passer la parole à la salle, puisqu'il doit y avoir d'autres questions ou des commentaires en français ou en anglais, peut-être. Si quelqu'un veut prendre la parole.
Attends, alors
vous avez besoin du micro ?
Oui, il faut le micro.
Bon, je voudrais savoir quel est votre choix, disons, entre une mauvaise peinture engagée et un tableau genre Matisse qui n'est pas engagé politiquement du tout?
Oh, mais là, la réponse est très facile, hein? Oui. J'ai déjà répondu, d'ailleurs.
Non, je suis arrivé avec un peu de retard.
Alors, je vais reprendre. La peinture engagée ne m'intéresse pas du tout, hein? Ce qui m'intéresse, c'est la peinture. Bon, donc, Matisse n'est pas engagé politiquement, mais si, il l'est sans le savoir. C'est-à-dire que ce qu'il fait est tellement, justement, inventif, créateur, qu'il est en état d'échapper. Et il est encore maintenant, sans cesse, dans une sorte de jouvence, de jeunesse, de juvénilité, d'inventivité extraordinaire, qui donne courage à ceux qui le suivent, même s'ils ne le copient pas ou ne s'en inspirent pas de manière mimétique, pas du tout. Par exemple, pour Antaï, Matisse, c'est quelqu'un qui l'a sauvé à une certaine époque, simplement parce qu'il a pris des ciseaux et qu'il a su les utiliser comme il fallait. Bon. Donc, à aucun moment, je ne penserai une seconde qu'il faut qu'une œuvre... s'engage, pas du tout. Elle est tout engagée d'avance, justement dans la mesure où elle déconstruit ses propres moyens de création. Dans la mesure où elle transforme la couleur, ou le dessin, ou l'espace, où elle déborde, ce qu'elle fait, cette œuvre-là, c'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait. C'est-à-dire dans la mesure où elle est ouverte à de l'événement. Ce qu'on fait en littérature aussi, c'est tout. C'est-à-dire que jamais de ma vie, je ne lirai un texte qui se présenterait comme un texte engagé, parce que d'avance, ça ne m'intéresserait pas.
Ben, tout à fait d'accord, parce que implicitement, chaque œuvre est engagée, mais je crois, de l'autre côté, avec, disons, où il y a cet élément engagé, pas bien formulé, que avec la misère visuelle, on ne peut pas aider la misère du monde.
Ah,
donc on
fait.
Est tout à fait d'accord.
Mais tout à fait, bien sûr. Mais tout à fait. Alors là-dessus, quand je parle des conditions de production, etc., c'est que je pense qu'il faut pouvoir penser ces choses-là, ce que je disais tout à l'heure. Que Antaï soit sorti du marché, c'est quelque chose qui est tout à fait admirable. Mais il y a aussi, il faudrait penser toutes les formes. Par exemple, penser aussi ce que c'est qu'un musée. À quoi, justement, s'en est pris directement Nancy Spero. Mais aussi, on trouvera aussi des remarques sur les musées dans les textes de Derrida sur l'art, etc. C'est très important. Même la pratique des musées, si on change de pays, si on change, par exemple, si on regarde ce que c'est qu'un musée en France, est-ce que c'est une pratique de musée en Allemagne ou ce qui est une pratique de musée en Angleterre, c'est radicalement différent. Ça change tout. Ça change aussi le rapport de l'œuvre à sa destination. C'est-à-dire, qui va la regarder, pourquoi, comment et qu'est-ce que ça fait. Voilà. Ceci dit, je dois vous dire qu'ici, cette petite maison que je ne connais pas du tout, puisque je trouve qu'elle a des collections absolument extraordinaires, et ça me fait penser qu'à côté des grands musées, il faut aussi une multiplication de petits lieux qui sont des lieux d'accueil. Hein. La question de l'hospitalité, elle est absolument décisive. Alors, parlons des grands musées. En France, franchement, vous n'allez pas voir dans les grands musées des sans-domicile fixe. Enfin, moi, j'en ai encore jamais vu. Ben, j'en ai vu plein en Angleterre. J'ai vu des sans-domicile fixe avec leurs cartons hein, qui vont leur servir de maison provisoire pendant la nuit en train de se promener dans les musées anglais parce que c'est tout simplement véritablement ouvert. Donc ça change aussi le destin d'une œuvre. Alors moi je pense que je ne me pose aucune question justement de... Il ne peut pas y avoir un contrôle politique préalable d'une œuvre. Il n'y en a pas à ce moment-là d'œuvre. Et je suis persuadée que le sans-domicile fixe que je voyais, que je suivais, je dois dire, par curiosité, au British Museum il y a 3 semaines, je me disais, qu'est-ce qu'il va regarder? Et il s'est longuement attardé devant des collections assyriennes, et je me disais, je suis bien d'accord avec lui, tiens. Voilà.
Alan, do you want the micro? D'autres questions?
Alors on va dîner.